Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, une nouvelle source de tension au Moyen-Orient. L'Iran revient sur une partie de ses promesses à propos du nucléaire. C'est la réponse un an exactement après au retrait américain de cet accord sur le nucléaire. Alors est-on au seuil d'une nouvelle crise majeure dans la région ? Christian Chéneau dans un instant et notre invité, l'ancien ambassadeur de France en Iran, François Nicoulot. Assia Bibi a quitté le Pakistan près de 10 ans après sa condamnation à mort, 6 mois après avoir été acquittée. La jeune femme chrétienne harcelée est sans doute au Canada. Les célébrations du 8 mai, Emmanuel Macron dialogue avec le fils du général de Gaulle. Le président sur absolument tous les fronts en ce moment, nous dira Cyril Graziani. Les dossiers sur d'éventuelles violences policières sont-ils bloqués ? Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Près de 6 mois après les premières manifestations de Gilets jaunes, vous avez creusé cette question.
229 enquêtes de l'IGPN. La police des polices sont toujours en cours. 60 dossiers ont déjà été bouclés, mais pour l'instant, les procureurs concernés sur l'ensemble du territoire n'ont pas encore décidé des suites à donner judiciairement.
Les détails avec vous tout à l'heure. Dans ce journal encore, les radars embarqués dans des voitures privées. L'essai serait-il un bide, comme le disent certaines associations de prévention routière. Nous entendrons la réponse d'Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la prévention routière. Retour sur la victoire de Liverpool, 4-0 hier soir face à Barcelone. Avis d'un Britannique amateur de foot, Darren Tullett.
Absolutely fucking crazy. C'est pas du tout le club que je supporte normalement, mais là j'étais 100% en rose beef quoi, pendant ce spectacle.
Et le rose beef, en l'occurrence c'est le rouge du maillot de Liverpool. L'animateur nous parlera de ce club décidément pas comme les autres. Ce soir, la deuxième demi-finale de Ligue des Champions, Ajax-Tottenham, l'Ajax, autre club mythique. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France, un 8 mai qui ressemble à un 11 novembre.
Un 11 novembre, effectivement, on a une perturbation qui glisse d'ouest en est. Les pluies sont régulières et parfois soutenues entre un large quart nord-est et les Pyrénées, mais plus rares sur les régions de la Méditerranée. Entre les Hauts-de-France, l'Aquitaine et les régions de l'Ouest, le ciel est plus variable, mais les averses sont nombreuses et même orageuses. Et puis attention, ce soir et cette nuit, entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, on attend un fort coup de vent avec des rafales dépassant les 100 à 110 km par heure.
Un temps à se réfugier dans une salle de cinéma. Eva Bétan nous conseille une rétrospective Michel Deville. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Un geste symbolique, un ultimatum et une menace. Voilà comment l'Iran célèbre le premier anniversaire du retrait américain de l'accord nucléaire de 2015. Cet accord, en termes simples, c'était « Vous limitez votre programme nucléaire, vous les Iraniens, en aucun cas vous ne fabriquez la bombe ». En échange, plus de sanctions internationales, l'économie iranienne retrouvera du souffle. C'est cet accord dont Donald Trump est sorti il y a un an. Depuis, l'économie iranienne étouffe. La réplique du président Rouhani, l'Iranien, ce matin, il écrit et s'adresse aux autres signataires de l'accord, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, la Chine. Un geste symbolique, un ultimatum, une menace.
À partir d'aujourd'hui, nous ne vendrons ni notre uranium enrichi, ni notre eau lourde. Nous avons dit à l'autre partie que si dans un délai de 60 jours, si nos intérêts fondamentaux sont respectés, en particulier le pétrole et les questions bancaires, nous reviendrons en arrière. Mais sinon, nous prendrons 2 autres mesures. Dans le message que nous avons envoyé aux 5 pays, nous avons dit clairement que s'ils voulaient prendre prétexte de notre décision pour envoyer notre dossier devant le Conseil de sécurité, ils feront face à une action très forte de notre part.
Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
Rédaction internationale de France Inter. Les Iraniens ne se retirent pas de l'accord. Hein. Que font-ils précisément ?
Oui, c'est un retrait partiel. L'Iran va cesser d'appliquer les limitations sur la quantité de ses stocks d'uranium enrichi et d'eau lourde, dont le plafond avait été fixé respectivement à 300 kg et 130 tonnes. Dans une lettre aux pays encore partie prenante de l'accord, c'est-à-dire la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, Téhéran notifie que ces matières nucléaires ne seront plus transférées et vendues à l'étranger, comme le prévoyait l'accord de Vienne de 2015. Par ailleurs, l'Iran donne un délai de 2 mois aux pays signataires pour qu'ils respectent leurs engagements, notamment en levant les sanctions dans le domaine bancaire et pétrolier. En l'absence de résultats, Téhéran pourrait revenir sur d'autres engagements et augmenter son niveau d'uranium enrichi, a prévenu le président Rouhani, qui s'est dit ouvert à la négociation, mais la décision iranienne d'aujourd'hui place les Européens, les Russes et les Chinois face à leurs responsabilités, car si aucune solution, aucun compromis n'est trouvé d'ici 2 mois, eh bien on s'acheminera alors vers une nouvelle crise majeure dans la région.
Invité de ce journal, François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Est-ce que cette crise majeure, nous y sommes déjà entrés, monsieur Nicoulot ?
On y entre à petits pas, disons. On n'y est pas encore tout à fait rentré. Je suis très frappé dans cette affaire par la prudence quand même des Iraniens qui sentent très bien que, au fond, les Américains ont essayé de refermer sur eux un piège, hein, un piège de les pousser à la faute, de les amener à sortir de ce fameux accord nucléaire de 2015. Et là encore, Don Rouhani est très très prudent. Il se donne un délai, il en parle aux autres Européens, et même s'il revient sur certains engagements de l'Iran à l'intérieur de cet accord, il ne sort pas de l'accord.
Au fond, ce qu'il dit aux autres signataires, c'est aidez-nous, nous sommes en train de souffrir, l'économie iranienne souffre des sanctions américaines, aidez-nous avant qu'il soit trop tard, c'est ça le message ?
Oui, ça tout à fait, effectivement. Et c'est vrai que la population iranienne souffre énormément, que la situation est très difficile. Et pour le gouvernement, il doit régler la question de la population. Et il doit trouver aussi un langage face à ses opposants, parce que les opposants conservateurs considèrent que le gouvernement iranien est trop mou, est trop faible, etc. Il doit éviter de tomber dans cet autre piège, en quelque sorte. Il est entre Karim et Silla. Il navigue vraiment sur une crête extrêmement étroite entre la pression américaine
et la pression
interne.
Question Christian Chéneau, monsieur Nicolau.
François Nicolau, qu'est-ce que pourraient mettre les Européens, les Chinois, les Russes sur la table pour trouver une solution, trouver un compromis ?
Ben ça, c'est la question à 1000 francs, effectivement, parce que tout ce qu'ont essayé de bâtir les Européens jusqu'à maintenant pour faciliter le commerce avec l'Iran reste dans les limbes. Ça marchera peut-être un jour, mais on n'est pas dans la même échelle de temps. Ça prendra peut-être plusieurs années pour vraiment arriver à se développer. Pour le moment, c'est vrai que l'Iran est en très très grande difficulté et le resserrement des sanctions sur le pétrole, puisque maintenant les Américains ont dit que ça serait vraiment zéro goutte de pétrole iranien comme exportation, ça va les mettre dans une situation extrêmement difficile.
Alors les premières réactions, je vous propose, monsieur Nicolau, d'écouter celle de la ministre des Armées, Florence Parly, ce matin.
Il n'y a pas de sanctions aujourd'hui de la part de l'Europe parce que l'Iran a jusqu'à présent respecté les engagements qu'il avait pris de contrôle et de respect des installations nucléaires en Iran. Donc, si ces engagements n'étaient pas respectés, naturellement, cette question serait posée.
Est-ce qu'il faut une réunion internationale ? C'est peut-être ce que souhaitent les Iraniens, ou au moins les signataires de cet accord, qu'ils soient réunis pour avancer dans ce dossier, François Nicolau ?
Oui, absolument. D'ailleurs, l'accord lui-même a des clauses pour tenter de régler ce genre de problème. Il y a une commission mixte qui se réunit régulièrement, tous les 3 mois, et à la demande d'une des parties, si elle considère qu'il y a un problème très sérieux, et manifestement, les Iraniens vont activer cette disposition. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un cas assez particulier, parce que les États-Unis, non seulement sont sortis de l'accord, mais ils essaient maintenant de détruire l'accord de l'extérieur, si vous voulez, en bloquant certaines dispositions qui figurent noir et blanc dans l'accord, cette capacité de l'Iran de vendre précisément son uranium enrichi au-delà d'un certain seuil. Voilà, donc ça c'est quand même une situation assez extraordinaire, assez étonnante.
Pourquoi, question naïve François Nicolau, pourquoi les États-Unis de Trump en veulent-ils à ce point à l'Iran ?
Il y a une certaine fébrilité en ce moment aux États-Unis parce que les sanctions américaines sont revenues depuis déjà août dernier, il y a une deuxième vague en novembre, et là en ce moment il y a une troisième vague, y compris donc le zéro goutte de pétrole en exportation iranienne, parce que les Américains sont assez nerveux à l'idée que finalement l'Iran n'a pas cédé. Ils s'imaginaient qu'avec leurs sanctions, l'Iran allait céder assez rapidement, et l'Iran tient bon. Or, Trump n'a pas tellement de succès sur le plan international à afficher. L'élection américaine pour lui-même, hein, l'élection présidentielle, ben ça va être dans un peu plus d'un an. La campagne va s'ouvrir dans quelques mois pratiquement, enfin disons dans une petite année. Et là, il faut absolument qu'il arrive à afficher des succès, il faut absolument qu'il démontre qu'il arrive à quelque chose à l'égard de l'Iran, qu'il fasse mieux que son grand ennemi finalement qui était Obama.
Parmi les réactions du matin, celle du Kremlin qui dénonce une pression déraisonnable sur Téhéran. Quel rôle pour la Russie et pour la Chine dans cette histoire ?
Parlons de la Chine. Tout d'abord, la Chine, c'est assez compliqué pour elle parce que l'Iran est important, bien entendu, mais les États-Unis sont encore plus importants. La Chine est engagée dans une négociation commerciale très difficile en ce moment avec les États-Unis. Donc, voilà, elle est quand même extrêmement prudente. On va voir si elle arrive, si elle défie les Américains en ce qui concerne précisément les achats de pétrole, parce que la Chine est le premier client de pétrole iranien, mais elle a quand même réduit ses achats. Est-ce qu'elle va aller jusqu'à zéro? Est-ce qu'elle va essayer d'en acheter clandestinement? C'est la grande question. Quant à la Russie, peut aider l'Iran, effectivement, et peut aider l'Iran, et notamment en récupérant du pétrole iranien, peut-être en le noyant, si vous voulez, dans d'autres pétroles, en effaçant le pavillon qu'il y aurait sur le pétrole iranien pour mieux permettre son exportation. Voilà ce que pourrait faire la Russie en particulier.
Et quand les États-Unis, dernière question, laissent entendre qu'il y a une menace militaire iranienne, est-ce que cette menace est crédible?
Non, elle n'est pas crédible, parce que les Iraniens, même s'il y a des rodomontades de la part des pasdaran, de certains généraux iraniens, savent très bien que le rapport de force est inégal et ce n'est pas eux qui vont ouvrir un nouveau front face aux États-Unis. Il faut dire que, d'un autre côté, les généraux américains ne sont pas du tout enthousiastes à l'idée d'entrer en guerre contre l'Iran. Hein. Donc, on n'en est pas encore là, on n'en est pas encore à l'affrontement armé, en tous les cas pour le moment.
Merci François Nicolau d'avoir répondu à nos questions et merci à Christian Chesneau qui m'a permis de préparer cet entretien. Elle a enfin pu quitter son pays, Asia Bibi, cette chrétienne victime d'acharnement, n'est plus au Pakistan. Elle avait été accusée à tort de blasphème il y a 10 ans de cela, acquittée il y a 6 mois, mais les conditions de sécurité pour son départ n'étaient jusque-là pas réunies. À Islamabad, Solène Fioriti.
C'est aujourd'hui la fin de l'affaire Asia Bibi. Après presque 10 ans de violence, après 2 assassinats d'hommes politiques ayant pris sa défense, puis la traque de son mari et de ses 2 filles pendant des années, l'ancienne ouvrière agricole Asia Bibi serait enfin libre et en sécurité. D'après son avocat, Maître Saïf Oulmalouk, Asia Bibi est déjà arrivée au Canada, sa nouvelle terre d'accueil, un pays qui a déjà accueilli des victimes de la loi sur le blasphème au Pakistan. Mais ni Ottawa ni Islamabad n'ont pour l'instant confirmé l'information. L'annonce du départ d'Asia Bibi n'a pas pour le moment créé de violence, alors que des milliers de militants radicaux avaient protesté dans la rue après son acquittement en octobre dernier. Le Premier ministre Imran Khan, fervent défenseur de la loi sur le blasphème, s'était montré ferme à l'égard de ces manifestants, appelant la rue à respecter la décision des juges. Si beaucoup ont espéré que ce jugement courageux ferait jurisprudence, la loi contre le blasphème continue d'être appliquée au Pakistan. Bien qu'elle s'attaque aux chrétiens et aux hindous, les principales victimes restent les musulmans. Solène Fioriti, Islamabad pour France Inter.
L'actualité internationale, c'est encore les Sud-Africains qui ont commencé à voter pour des élections législatives et régionales. L'ANC, l'ancien parti de Nelson Mandela, qui est au pouvoir depuis 1994, devrait remporter ces élections. C'est en tout cas le favori.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Près de 3/4 de siècle sont passés depuis la capitulation de l'Allemagne dans la nuit du 8 au 9 mai 1945. C'est à l'Arc de Triomphe, restauré après les saccages du 1er décembre, qu'Emmanuel Macron a célébré pour la 3e fois ce moment essentiel de l'histoire de France, d'Europe et davantage. Remonter les Champs-Élysées, raviver la flamme sur la tombe du soldat inconnu, saluer les anciens combattants et un salut au général de Gaulle également. Franck Cognard, vous avez assisté à cette cérémonie, quelles images gardez-vous?
Après la cérémonie, classique, revue des troupes, flamme du soldat inconnu ravivée, le président s'est attardé. D'abord, sous l'Arc de Triomphe, où étaient regroupées des associations d'anciens combattants. Emmanuel Macron s'agenouille devant le fauteuil roulant d'un ancien d'Indochine qui lui raconte un souvenir de guerre. Poignée de main, puis le chef de l'État se dirige vers l'une des 2 tribunes dressées de part et d'autre des Champs-Élysées. 2 classes de CM2 venues de Marmande lui remettent un épais classeur bleu, fruit du travail de ses écoliers sur le devoir de mémoire. Le président leur dit l'importance de la transmission, l'importance du souvenir, quand le nombre des derniers survivants des combats s'amenuise, cérémonie après cérémonie. C'est d'ailleurs cet esprit de la transmission qui est désormais mis à l'honneur les 8 mai. Pas de soldats venus d'opérations extérieures, pas de régiments présents. Mais les troupes du jour sont celles des écoles, polytechniques, écoles des mousses, écoles des sous-officiers et officiers des différentes armées. des jeunes en uniforme restés stoïques sous les averses qui ne se sont arrêtées qu'après la cérémonie.
Merci Franck Cognard, était présent à cette cérémonie également l'ancien président Nicolas Sarkozy et François Hollande. La preuve, il pleuvait. Et puis Emmanuel Macron qui a donc présidé ces cérémonies. Alors est-ce qu'on peut lui demander de changer le temps à Emmanuel Macron peut-être ? Bonjour Cyril Gardiani.
Bonjour.
Vous aussi, vous avez passé une partie de la matinée sous la pluie. Le président va peut-être s'occuper de météo parce qu'au fond, entre le 8 mai, la campagne des européennes, la sortie du grand débat, Emmanuel Macron, s'il n'est pas Jupiter, ressemble à Shiva en ce moment, le personnage qui s'occupe de tout, hein.
Et ce matin, d'abord, président commémorant. Cérémonie on ne peut plus classique. Emmanuel Macron n'a pas souhaité entrer dans l'arc de triomphe qui a été réparé pour ne pas remettre, dit-il, une pièce dans la machine politique. Seule petite référence, quand il a croisé le petit-fils du général de Gaulle, ce dernier l'a remercié. La République va bien, la République va mieux grâce à vous. Le chef de l'État lui a glissé en réponse. On essaye de s'inspirer des bonnes sources. Dans les pas d'un de ses prédécesseurs, les autres, François Hollande et Nicolas Sarkozy, eh bien, il les a salués furtivement. Et puis, il y a le président omnipotent. Vous me direz, Bruno, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est un peu le mantra d'Emmanuel Macron qui a saisi ces dernières semaines que la campagne de sa liste patinait, que sa tête de liste décevait. Alors hier, il a jugé bon de se lancer tout seul dans cette campagne. Il est resté invisible, mais sa présence largement commentée a suffi pour en faire le nouveau chef de file. N'ayez pas peur et donnez envie, a-t-il conseillé à sa liste Renaissance. Emmanuel Macron veut reprendre les choses en main. Une défaite, c'est-à-dire une deuxième place derrière le RN, lui serait imputée. Alors il s'active en prenant position pour la biodiversité lundi sur le perron de l'Elysée, en s'affichant sur la future profession de foi de la liste En Marche. En haut, les colistiers. En bas, le chef de l'État et ses quelques lignes écrites à la main. Liberté, protection, progrès. Le président doit tout contrôler. Et en soi, c'est un aveu d'échec.
Et le gouvernement continue d'aligner les chiffres pour convaincre qu'il répond aux revendications des manifestants ces derniers mois. 95% des contribuables paieront moins d'impôts l'année prochaine, affirme Gérald Darmanin. Montant moyen de la baisse, selon le ministre des Comptes publics, 300 euros par foyer. Si des fautes ont été commises, elles seront sanctionnées. C'est la réponse régulière du ministre de l'Intérieur et du gouvernement à ceux qui accusent les forces de l'ordre de violences policières lors des manifestations gilets jaunes. Si des fautes ont été commises, elles seront sanctionnées. Est-ce vraiment le cas ? Emmanuel Leclerc, le constat, près de 6 mois après les premières manifestations, c'est que aucune des enquêtes judiciaires ouvertes n'a débouché, pour l'instant, sur des poursuites au tribunal.
Oui, alors, 229 enquêtes sont en cours au sein de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, mais 60 dossiers ont déjà été bouclés par la police des polices et renvoyés dans les juridictions concernées. Ils sont donc, ces dossiers, dans les mains des procureurs, mais aucun, effectivement, n'aurait encore pris de décision sur les suites à donner, renvoyer un policier devant un tribunal ou classer sans suite, ce qui provoque la colère d'Arié Halimi, l'un des avocats de la Ligue des droits de l'homme, qui représente une dizaine de victimes de violences policières présumées, dont Geneviève Leguet à Nice.
Il y a un véritable étouffement organisé. Quand vous savez qu'un manifestant qui commet une violence sur un policier est jugé en 48 heures et souvent envoyé en prison, quand je dis qu'on a une attitude illégale de la part des institutions judiciaires, je pèse mes mots dans le seul but d'éviter que les enquêtes soient ouvertes ou qu'il y ait des poursuites contre les fonctionnaires de police ou de la gendarmerie.
Alors, les termes de l'avocat sont forts. Quelles explications, Emmanuel Leclerc, aux chiffres que vous nous avez donnés là ?
Alors, au ministère de la Justice, on affirme qu'il n'y a justement pas d'explication pour l'instant, que les procureurs n'ont pas de délai pour rendre leur décision de renvoi de policiers devant un tribunal ou de classement sans suite. Mais selon nos différentes sources sur le sujet, il y a plusieurs hypothèses. Les 60 dossiers qui ont déjà été bouclés sont les plus simples, entre guillemets, et il n'est pas sûr qu'ils pourraient tenir devant un tribunal. Ils peuvent manquer de preuves. L'IGPN, la police des polices, a pu considérer que la violence, l'usage de la force utilisée par certains policiers était en réalité légal et légitime. Un grand nombre de ces dossiers déjà bouclés pourraient donc être finalement classés sans suite. Il faudra en fait attendre la fin des enquêtes les plus sensibles à Bordeaux, Paris, Nice ou encore Marseille et Toulon pour avoir une idée plus précise du traitement des bavures présumées liées au maintien de l'ordre dans le conflit des Gilets jaunes. Mais là, ça devrait prendre encore quelques mois.
Qui est le jeune homme, pas encore majeur, 17 ans, preneur d'otage hier dans un bureau de tabac de Blagnac, près de Toulouse. 4 femmes retenues, de longues heures d'inquiétude avant l'intervention du RAID et de la BRI en fin de soirée. Piste terroriste rapidement écartée. Prénom Yanis, connu pour des affaires de vol ou de violence. Une lettre laissée chez lui, il semble assez dépressif. Une allusion au mouvement des Gilets jaunes, dit le procureur. Quoi d'autre, Alain Gastal ?
Oui, on a déjà vu, notamment à Toulouse, des petits délinquants sombrer dans l'ultra-violence et la folie criminelle. Mais là, si on a affaire à un jeune homme dangereux, car il est armé, preneur d'otages, il a tiré en l'air pour éloigner des policiers, on a aussi affaire à un jeune homme confus et dépressif. Yanis D. aura 18 ans le mois prochain. Il a déjà été condamné pour vol et violence et interpellé au mois de décembre dernier après une manif très violente de gilets jaunes à Toulouse. Un mouvement qui visiblement l'inspire puisqu'il s'en est réclamé lors de la négociation avec le RAID et que de façon très vague et lointaine, il l'évoque encore dans la vidéo qu'il a tournée à l'intérieur du tabac PMU pendant la prise d'otage.
Pour info, j'ai été recruté par une milice qui s'appelle, vous le verrez très bien, il s'appelle pas comme ça, mais vous le verrez très bien dans les prochains jours. C'est une milice armée qui cherche juste que l'État soit plus juste, j'arrive plus à parler.
Cette vidéo nous apprend aussi qu'il essaie de rassurer les otages, je ne suis pas un terroriste. Il leur a même permis de téléphoner à leurs proches, écoutez ce qu'on disait à 20h avant même les premières libérations. Jamel, c'est le compagnon de l'une des salariées prises en otage.
Maintenant que je l'ai eu au téléphone et qu'elle m'a dit que ça se passait bien, que tout le monde était calme à l'intérieur, qu'il n'y avait aucun souci, je suis quand même un peu soulagé. Je pense que ça va bien finir.
Finalement, les quatre otages seront libérés en début de soirée, mais il faudra encore 4 heures de patience et de dialogue aux policiers pour obtenir la reddition sans dommage de Yanis D. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
On redoutait qu'ils flashent comme des fous pour rapporter de l'argent. Eh bien, en fait, les radars embarqués, confiés à des compagnies et des chauffeurs privés, ne flasheraient pas assez. L'expérience était tentée en Normandie depuis un an. Ce serait un bide, selon certaines associations de sécurité routière. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
On sait que les Normands n'ont pas levé le pied ces derniers mois. Les radars n'ont pas été très actifs. Quelle est la réponse, notamment du côté du gouvernement et du délégué interministériel à la sécurité routière?
Eh bien, les premiers résultats de cette expérimentation ne semble en effet pas très concluant. Exemple, dans la Manche. Pour l'instant, ces nouveaux radars ont relevé moins de 10 infractions par jour, alors que les excès de vitesse sont en forte hausse dans ce département, où un quart des radars fixes ne fonctionnent plus à cause du mouvement des gilets jaunes. Alors, les radars embarqués confiés à des sociétés privées flashent assez peu, vous l'avez dit, essentiellement pour des raisons techniques, mais le but n'est pas de faire du chiffre, explique Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière.
On est dans quelque chose de totalement innovant. Ces voitures, qui sont la propriété de l'État, sont conduites par un chauffeur salarié d'une entreprise privée qui suit un itinéraire indiqué par les préfectures. Et la voiture fait tout toute seule. C'est pour ça qu'on a pris le temps de régler tous les problèmes qui se sont posés à nous. Ils sont multiples. Nos véhicules sont toujours en circulation. Mathématiquement, un radar arrêté flash beaucoup plus. Et j'ai un seul impératif dans cette affaire, c'est le respect de la procédure pénale et d'apporter des contraventions qui soient inattaquables d'un point de vue juridique et technique.
Certes, le dispositif se déploie lentement, mais il fonctionne plutôt bien, assure Emmanuel Barbe. À partir de cet été, 24 voitures radar circuleront en Normandie. Elles pourront contrôler près de 200 000 km par mois.
Merci Yann Gallic. Allez, le football, ce n'est pas que fric et beaufitude. Les amateurs ont leur part de surprises, de beaux jeux, de belles histoires lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Premier acte hier soir, Liverpool avait été battu 3-0 par le grand Barcelone au match aller. Eh bien, Liverpool a gagné 4-0 au match retour sous les yeux émerveillés d'un British amateur de foot, le journaliste Darren Tullett.
Absolutely fucking crazy. On sentait venir l'exploit, les buts sont venus couronner une soirée absolument magique. C'est pas du tout le club que je supporte normalement, mais là j'étais 100% rose beef quoi, pendant ce spectacle ahurissant, parce que ce stade Anfield est vraiment un lieu à part, un stade à l'ancienne où il y a une vraie communion avec le peuple rouge de Liverpool. Pas un mec a quitté le stade, ils étaient tous en train de chanter ensemble le fameux You'll Never Walk Alone. Vous ne marcherez jamais seul. C'était à voir, voilà, j'ai encore des frissons juste à en parler.
Est-ce que ça a pris le pas sur le Royal Baby, cette information, vous pensez?
Non, ce qui est drôle, c'est qu'en Angleterre, vous savez, pour l'instant, ils n'ont pas encore donné officiellement le prénom du petit prince. Donc on se demande en Angleterre si on ne va pas utiliser peut-être justement l'un des héros de cette soirée pour être le nouveau prénom du prince. En tout cas, après ce qui s'est passé hier soir, tout est possible.
En effet, tout est possible, propos recueillis par Cécilia Arbonne. Alors, deuxième acte. Autre club qui pèse son poids de légende à l'échelle du football, l'Ajax d'Amsterdam. Deuxième demi-finale ce soir. L'équipe de l'Ajax reçoit Tottenham après avoir gagné 1-0 à l'aller. L'ancien international français Julien Escudé a joué à l'Ajax pendant 3 ans. Il raconte ce cadre très particulier.
c'est une institution, c'est un football, c'est une identité propre du jeu. Donc on porte vraiment le poids un petit peu de l'histoire de ce club-là tous les week-ends lorsqu'on porte ce maillot-là. Il y a des codes, respect des horaires, respect du partenaire, respect de l'institution, respect des employés. On rentre là, mon premier jour où je suis arrivé, on était en stage de début de saison, et puis j'arrive en taxi, puis c'est mon capitaine de l'époque, Yari Litmanen, qui m'ouvre le taxi, qui m'accueille, qui me dit bienvenue à l'Ajax, et puis tout le monde était à table, et puis là c'est tour de table, un par un, Litmanen me présente tous les joueurs, tout le staff, un par un. Donc on rentre là-dedans, on se dit, ouf, là il y a quelque chose qui se passe. Là il y a un maillot, il y a un club, il y a une institution, donc toutes ces choses-là sont hyper importantes.
Et on vous oblige à parler le hollandais?
Aussi. C'est des cours de hollandais obligatoires. Deux fois par semaine, on a un professeur qui nous donne des cours. Donc voilà, intégration totale, immersion totale dans le pays et dans le club.
Interview réalisée par Fabrice Abgral, Ajax Tottenham, coup d'envoi 21h ce soir. Les sorties cinéma, une semaine avant le Festival de Cannes. Il y a un documentaire sur la ville de Lourdes, ses malades et ses pèlerins. Il y a aussi, sans transition, un film qui s'appelle Les crevettes pailletées, comédie, histoire d'un champion de natation homophobe qui entraîne une équipe de waterpolo homo. Pour les plus petits, il y a Pokémon détective Pikachu. Et puis les cinéphiles se tournent comme chaque semaine vers Eva Bétan, qui a choisi de faire un pas de côté et de nous conseiller une rétrospective. Bonjour Eva.
Bonjour.
Rétrospective Michel Deville à la Cinémathèque à Paris.
Michel Deville, c'est 50 ans de cinéma. Ouais. C'est quelqu'un qui est contemporain de la Nouvelle Vague, mais qui n'en fait pas partie, et qui a sa manière à lui qu'on ne peut réduire à aucune classification. C'est l'homme de la variété au sens des curiosités successives, ouais, au sens de l'expérimentation, au sens de la mise en scène doit chaque fois être parfaitement adaptée au sujet choisi. C'est un découvreur de comédiens, c'est quelqu'un qui va tous les soirs au théâtre, et c'est quelqu'un d'une grande finesse. Et je vais choisir, dans toute sa filmographie...
Un film par décennie.
Oui, des années 70, Le Dossier 51, sa manière de faire un film d'espionnage, c'était quasiment inadaptable, il le réussit. Années 80, je vous recommande La Lectrice avec Miu Miu. Oui. Comment d'une passion aimer lire, elle en fait une sorte de métier, aller lire chez les gens. Il y a toujours un petit chose retort quelquefois chez Deville.
Chez Deville.
Années 90, La Maladie de Saxe, c'était le prix du livre Inter.
Absolument, Martin Winkler.
Exactement, et il a la bonne idée de prendre Dupontel à contre-emploi dans ce rôle d'un médecin de campagne. C'était un livre Inter. Il va aimer dans les années 2000 adapter un autre livre Inter. C'était le magnifique livre Quoi de neuf sur la guerre de Robert Bobert. Oui. Juste après la, oui, guerre, dans un atelier de confection juif, les gens qui sont là, ils ont tous un passé lié à l'occupation et à la déportation.
On voit que vous travaillez en ce moment sur le livre Inter. Quand est-ce que le jury se réunit pour décerner le prix ?
Le dimanche 9 juin, et l'annonce à l'antenne, c'est le lundi 10, et après c'est ouvert aux cinéastes.
Et dans ce journal de 13h, on entendra les 10 auteurs en course. Merci, oui, Eva Bétan.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Une perturbation atlantique arrivée hier par l'ouest donne un après-midi gris et pluvieux sur une large moitié est et entre les Pyrénées et le Massif central. Sur le pourtour méditerranéen, les pluies sont plutôt rares et faibles, mais entre le sud-ouest et le nord-est, il faut s'attendre à de bonnes pluies parfois orageuses. Des éclaircies reviennent par le nord-ouest, s'étendant cet après-midi jusqu'aux Ardennes, au Berry et à l'Aquitaine. Ces éclaircies sont assez nettes, mais régulièrement entrecoupées d'averses, avec également des risques d'orages, notamment au nord de la Loire. La Corse reste à l'écart de ce temps perturbé et garde des éclaircies. Le vent est aussi bien sensible cet après-midi et va même se renforcer nettement sur le centre-ouest en fin de journée puisqu'on attend des rafales à plus de 100 à 110 km par heure entre le Sud-Bretagne, la Loire-Atlantique et les côtes charentaises. Côté température, les maximales sont en légère baisse, variant de 13 à 22 degrés.